France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard, Joséphine Reynards, Louise Cognard et Antoinette Benoît. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous parlons ce matin de la guerre qui déchire le Soudan 2 années après son déclenchement le 15 avril 2023. Le conflit entre les généraux ne donne aucun signe d'apaisement, au point que l'on évoque désormais le risque d'une partition du pays. Nous en discuterons avec nos invités et nous ferons le point sur la situation humanitaire avec Jérôme Tubiana et Raphaël Chevrillon-Guibert. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Mais pour commencer, place au retour de terrain en Iran. Comment le régime fait-il face à la révolte de la jeunesse? Comment les conservateurs perçoivent-ils le mouvement Femmes, Vie, Liberté? Bonjour, Charles Lemtaz.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisateur et grand reporter indépendant. Votre dernier reportage, Iran, le Mollah, les femmes et le voile, diffusé sur Arte, nous propose une immersion inédite dans les milieux pro-régime. À Téhéran, la capitale, puis dans la ville sainte de Qom, vous suivez le quotidien de Farhad Fatih, une figure médiatique des milieux religieux. Fort de son million d'abonnés sur les réseaux, ce mot-là s'est donné pour mission de remettre la jeunesse dans le droit chemin et de la convaincre du bien fondé des valeurs de la République islamique. Qui est ce mot-là, Farhad Fatih? Charles Lemtaz, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui? Commencez par le présenter.
C'est d'abord un religieux qui a fait des études à Homs, donc cette ville religieuse à 2 heures de Téhéran, de longues études, et puis il a compris que pour passer son message, pour être moderne, il fallait passer par Internet. Il a donc créé une petite chaîne de télévision au service de ce qu'il avait à dire, et il parle en toute occasion. Il est filmé du matin au soir par une petite équipe qu'il a recrutée. Et il commente l'actualité, il donne sa vision des choses, ce qui est traditionnellement le rôle des mollahs, le rôle des religieux, de donner une forme de guidance dans la société. Et sa particularité à ce Farhad Fatih, c'est à la fois d'être dans la ligne de l'ayatollah Ali Khamenei, et avec un petit twist jeunesse, avec une forme de main tendue, avec c'est ce qu'il dit, une capacité à parler à ceux qui ne pensent pas comme lui, et pour essayer, c'est son vœu de ramener cette jeunesse dans le droit chemin de la République islamique, dans ses valeurs. Voilà.
Vous le filmez à sa résidence le matin dans sa famille. Il est en train d'arranger son turban blanc qui est la parade des mollahs en Iran. Et puis en même temps, on le voit avec en permanence un petit AirPod dans les oreilles. Vous le disiez, c'est un homme résolument moderne, très connecté et en même temps très 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 ancré dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel au niveau religieux.
C'est ce qui fait la particularité d'un pays comme l'Iran, à la fois très ancré dans quelque chose, j'allais dire d'ancestral, enfin de très ancien, qui est la religion, le temps religieux, les livres, l'étude religieuse, le turban des mollahs, leur habit traditionnel, dans un monde qui est quand même, enfin dans un pays qui est moins ouvert aux influences occidentales que d'autres, et en même temps la modernité à travers ce petit objet qu'est l'AirPod, à travers les réseaux sociaux qui sont très consultés en Iran. Il y a plein d'interdits, mais il y a plein de façons de les détourner, les VPN en fait qui permettent aux Iraniens de se brancher sur l'actualité. Et lui, il plonge dans ce monde-là, il a compris, je pense, qu'il y a une nécessité pour cette révolution islamique, pour ceux qui défendent ces idées-là très conservatrices, d'être profondément moderne et de parler aux gens là où ils écoutent. Et Internet, évidemment, aujourd'hui, l'endroit où les gens s'informent.
Vous savez, avec toutes ces fake news qui nous envahissent, avec tous ces mouvements athées qui voudraient nous faire oublier Dieu, avec toutes ces vagues féministes et tout ça, vous voyez, il faut absolument parler à notre jeunesse. Il faut qu'on les comprenne. Il faut voir comment ils pensent pour être capable de répondre à ce qui les préoccupe. Il n'y a pas d'autre moyen que le dialogue avec la jeunesse. C'est la seule voie qui existe.
Farhad Fathy parle de comprendre et de dialoguer avec la jeunesse, mais qu'est-ce qu'il entend vraiment par là ? Est-ce qu'il s'agit pour lui de vraiment prendre en compte les aspirations des jeunes qui ont manifesté pour le mouvement Femmes, Vie, Liberté ? Ou est-ce qu'il s'agit de les convaincre qu'ils sont sur le mauvais chemin ?
En fait, la révolte Femmes, Vie, Liberté, je pense qu'elle a secoué le pouvoir, elle lui a fait peur. Et elle a créé l'idée chez les détenteurs du pouvoir qu'une révolte était possible. Et en même temps, il y a cette idée c'est l'influence étrangère, c'est l'Occident, c'est Internet, c'est tout un tas de mauvaises, enfin ce qu'ils considèrent comme des mauvaises influences, qui auraient détourné la jeunesse des vraies valeurs iraniennes. Donc Farhad, il a cette croyance qui va pouvoir ramener les gens, enfin recréer du dialogue dans une société qui comprend cette fracture et je ne sais pas s'il a vraiment l'ambition de faire des gens qui ne croient plus au régime des mollahs, mais en tout cas amener un peu de concorde. Voilà, il y a cet espoir chez lui et chez d'autres que la société n'explose pas entre ces différentes parties.
La question est-ce qu'il va jusqu'au bout de sa démarche de dialogue ? Autrement dit, est-ce que ce sont des vidéos qu'il prend et qu'il filme et qu'il diffuse à longueur de journée de lui-même s'adressant aux autres ? Ou est-ce qu'il est aussi dans la démarche d'aller se mettre en lien avec des jeunes femmes qui refusent de porter le voile, par exemple, des jeunes hommes qui ont participé au mouvement pour les écouter ? Voilà, c'est juste pour comprendre quand il parle de dialogue, est-ce vraiment un dialogue qui va dans les deux sens ?
Alors, il y a beaucoup de dialogues qui passent à travers Clubhouse, qui est un réseau social qui a la particularité d'être audio. Donc là, je crois qu'il a dialogué avec des opposants. Nous, on l'a suivi dans une espèce de comité de censure. En tout cas, il a été appelé par un studio d'animation qui avait fait un dessin animé avec une image de la femme qui déplaisait à certains dans le pouvoir, et ils appelaient quelqu'un comme Farhad un peu à la rescousse pour dire, voilà, est-ce que toi, Mola, tu es d'accord pour cette représentation de la femme ? Et il faut voir qu'il arrive dans ce studio d'animation, qu'il y a 130 personnes qui travaillent, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez sérieux, et il va donner son avis de Mola, et son avis de Mola, quand on est en Iran, bah, ça compte, et ils vont pouvoir se prémunir de cette espèce de soutien, en disant, voilà, donc je pense que le dialogue, il passe aussi à travers des choses comme ça. Les Mola, ils ont une autorité, et certains d'entre eux peuvent apparaître, entre guillemets, plus ouverts que les durs de les mollahs durs. Il faut voir que la société iranienne, le monde conservateur iranien, il est très vaste. Il y a énormément de mouvements différents, de tendances et une vraie circulation des idées. Et c'est vrai que vu de France, on a l'impression d'un monolithe. Et quand on va là-bas, on se rend compte que les gens ne pensent pas du tout de la même façon, même s'ils portent tous des turbans, enfin en tout cas les religieux. Il y a mille et une façons de penser en Iran. Et c'était l'intérêt pour nous de parler de ce pays en y allant. C'était de sortir un peu d'une image toute faite qu'on peut avoir et de se dire qu'est-ce qui se passe quand on se balade dans les rues, pas un moment de révolte. Qu'est-ce que ces gens-là qui portent ce message ont à nous dire ?
Et quand vous baladez dans les rues en accompagnant Farhad Fathy, vous remarquez qu'il est régulièrement interpellé par des gens dans la rue, puisqu'il est très connu. Voilà, il a son million de fidèles sur les réseaux sociaux. Et les gens viennent lui demander de faire un post sur tel ou tel sujet. Par exemple, c'est un sujet qui revient souvent, des gens lui demandent de faire des posts sur les femmes qui sont mal voilées. Et on sent qu'il y a un peu de reproche, un peu de demande, de dire vous devriez être plus sévère dans dans vos postes.
Bien qu'ils s'en défendent parfois, la question du voile, elle est très importante en Iran. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le mouvement Femmes Vie Liberté qui a remis en cause cette obligation de porter le voile. Il y a eu un projet de loi très restrictif pour celles qui ne porteraient pas le voile, qui était repoussé par le président actuel. Donc la frange la plus conservatrice, elle est un peu démunie, elle dit « Ah tiens, on ne serait plus obligé de porter le voile, on voit plein de femmes, et c'est le cas notamment à Téhéran, qui ne portent plus le voile, elles sont très dérangées. » Donc certaines vont voir Farhad en disant « Ça serait bien que tu te ranges un peu de notre côté, et que tu dises que vraiment le voile est obligatoire, que celles qui l'enlèvent font du mal au pays. »
En février, les Iraniens ont commémoré les 46 ans de la révolution islamique et dans les rues de Téhéran, même à cette occasion, on croise des femmes peu ou pas voilées.
Je suis étudiante, je suis là pour faire des photos. Mon sujet, c'est la société, l'ethnographie.
Nous, on va prendre des photos partout en Iran. Mais aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Il y a une foule immense.
Vous prenez des photos et ensuite vos images vont dans les pays occidentaux. C'est de la mauvaise publicité pour nous.
Mais madame, nous avons filmé tout le monde ici.
Ma chérie, remets ton voile, surtout pour ce jour formidable.
Non, au contraire, c'est beaucoup mieux.
Non, ce n'est pas mieux. Notre forteresse est menacée. Non, c'est vous qui êtes en train de la casser. Non, ce n'est pas comme on veut. On a une idéologie et on l'applique, c'est tout.
Une altercation en pleine rue que vous avez filmée, Charles Emtaz, entre deux jeunes étudiantes, tête nue, venues prendre des photos de la foule, et une femme un peu plus âgée qui les réprimande. Dans quelle atmosphère cette altercation a-t-elle lieu lorsque vous la filmez ? Est-ce que c'est plutôt tendu ? Est-ce que ça reste cordial ?
Le lieu, c'est Téhéran, les 46 ans de la révolution islamique, donc c'est le grand raout des conservateurs. Il y a des centaines de milliers de gens où ils se disent « on est entre nous, là, vraiment entre conservateurs ». Et on a vu avec Olivier Jobard, avec qui j'ai fait le reportage, ces deux jeunes femmes qui se baladaient, dont l'une avait la tête nue et qui va être prise à partie à la fois par une jeune femme qui va remettre le voile à cette personne qui ne le portait pas, tout en l'embrassant, puis par une dame plus âgée qui va dire « Attends, tu te fais filmer, tête dévoilée, comme ça, c'est terrible. » Donc c'était important, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le reportage aussi, c'est un conflit générationnel. Et c'est-à-dire que celles qui osent se dévoiler sont souvent plus jeunes, et pour une génération plus ancienne, le voile est au contraire un acquis, puisque le voile, avant la révolution islamique, était interdit. Donc pour elle, le voile, c'est la libération, c'est l'Iran. Donc on est dans une société où tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Et le voile n'est pas une oppression pour toutes les femmes en Iran, mais c'est une obligation qui est remise en question, et c'est très choquant, je pense, pour des Iraniennes plus âgées ou plus conservatrices, de voir que ce fondamental, ce bout de tissu visible qui serait une adhésion aux idées de la révolution islamique, est remis en cause. Parce qu'une femme dévoilée, c'est aussi quelqu'un qui dit j'y crois pas, je crois plus à vos idées.
Et au régime. L'anniversaire de la révolution, c'est aussi l'occasion de rappeler qui sont les ennemis de l'Iran. La rhétorique anti-États-Unis, anti-Israël est toujours aussi présente.
C'est le fondamental de la République islamique, d'identifier le grand Satan, les États-Unis, le petit Satan, Israël. Alors Donald Trump, là, il s'en donne à cœur joie. On a vu beaucoup d'effigies de Donald Trump brûlées. Il y avait une grande photo sur laquelle les Iraniens allaient inscrire des insultes. Et en même temps, c'est essentiel pour par exemple, le taux du dollar vis-à-vis de la monnaie locale, le toman, qui est en train de dévisser, est quelque chose qui concerne tous les Iraniens. Les sanctions américaines, c'est quelque chose au cœur du quotidien des Iraniens. Donc ils sont très dépendants aussi de cette relation conflictuelle aux États-Unis et aux réactions que peut avoir le pouvoir. Si le pouvoir est intransigeant, pour eux, ça veut dire une monnaie qui se dévalue encore plus, des difficultés économiques encore plus grandes. Donc ils sont au-delà du côté spectaculaire, ils sont très attentifs à ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, évidemment Israël. Et voilà, c'est pas juste des idées pour les Iraniens, c'est quelque chose de très concret.
Vous vous rendez également à Rome, la ville sainte où se trouve l'ancienne maison de l'ayatollah Khomeini qui a été transformée en musée. Et dans les rues de cette ville, on croise des endroits où on peut se faire prendre en photo avec des figures de combattants iraniens qui sont morts plus ou moins récemment dans des guerres. Il y a le général Soleimani, mais aussi des alliés des Iraniens, le Hassan Nasrallah du Hezbollah, Yahya Sinouar du Hamas. Et ils sont là comme ça dans des montages en carton, en grandeur nature, et on peut prendre des selfies à côté d'eux. C'est une pratique populaire que vous avez observée.
C'est surprenant pour nous parce que ces figures-là, Yahya Sinouar, Hassan Nasrallah, qui sont morts à la guerre, représentent pas du tout des héros chez nous. Là-bas, on les voit aux quatre coins des rues, sur des grandes affiches, en effet, des effigies en carton taille humaine avec lesquelles on peut se prendre en photo. C'est quelque part une galerie de martyrs, de figures charismatiques qui incarnent la lutte contre, essentiellement contre Israël, contre l'Amérique, et finalement cette voix iranienne, cet Iran national qui peut se projeter au-delà de ses frontières, et ces chefs de guerre, ils représentent ça. Donc pour le régime iranien et pour une partie des Iraniens qui y croient, ce sont des figures qui rendent fiers, ce sont des héros, et ces héros sont mis en valeur.
Et pour une autre partie de la population, toujours dans la ville sainte de Rome, en Iran, eh bien, il y a aussi cette jeunesse qui étouffe.
Homme, c'est comme une prison. Nous, en tant que jeunes, on manque d'oxygène et on est tout dans cette ville. Parce qu'ici, on est chez les mollahs, on est chez les chers, la ville leur appartient.
Arrête, on va se retrouver en tôle.
À cause des mollahs, on peut pas faire ce qu'on veut. Les cafés sont séparés, rien n'est mixte. On peut même pas sortir en couple. Et puis les mollahs contrôlent nos fringues. On peut pas s'habiller comme on veut. On ne peut pas mettre de shorts l'été. Et les filles, c'est encore pire pour elles.
Oh, ferme-la!
Témoignage d'un jeune homme dont la voix et le visage ont été modifiés afin de préserver son identité. Et d'ailleurs, on entend l'inquiétude de ses amis à côté de lui qui l'enjoignent à se taire quand il vous parle face caméra. La scène est filmée dans ce qui apparaît être une sorte de parking. Les jeunes hommes font des batailles de boules de neige. On est en mois de février. Ils improvisent une piste de danse. Ils se chahutent. Il y a aussi quelques jeunes filles qui fument des cigarettes. Les jeunes manquent de lieux. De lieux publics, de lieux tout court pour se rencontrer, pour vivre, pour s'amuser.
Alors, il y a peu de boîtes de nuit à Homme. En fait, non, il n'y en a pas. Évidemment, la jeunesse manque de ce qu'on trouve en Occident, c'est-à-dire des lieux où se rencontrer, où se draguer, etc. etc. Là, c'était une journée très particulière parce qu'il ne neige pas souvent à Homme, qui est une ville plutôt dans le désert, contrairement à Téhéran où il y a beaucoup de neige. Et c'est vraiment au hasard, en allant sur une colline, qu'on a vu tout un ensemble de voitures qui mettaient la musique à fond, les gens se mettent à danser, certaines femmes ont enlevé le voile, les garçons sont bras dessus, comme ça, et la parole se libère. Et la neige a libéré quelque chose... vraiment de très inattendu pour nous, et c'était important, même si on faisait un reportage sur les conservateurs, de montrer que il y a aussi un feu qui couve quelque part. En tout cas, il y a cette jeunesse qui n'adhère pas tout simplement au futur qu'on voudrait pour elle. C'est aussi une jeunesse connectée au réseau. Ils sont au courant qu'un autre monde existe.
Merci beaucoup Charles Mtaz. Votre reportage Iran, le Mollah, les femmes et le voile, dont les images sont signées Olivier Jobard, est disponible sur Arte. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de terrain.
Merci.
خوندم ات که نوشتم شک دارم مادرم میگفت شیطان یه فرشته است. لب خاموش شدم بس هست هستم مینویسه از قصد بهم گفتم وایسنش هستم پس به دست باد آویزون چسبیده به نرخ رفتم تولتش در آوردم سر از مجلس خطر آزادم توی بندم واسه تخیم خود قندم سرد موندم که نگندم با اینکه آتیشم قرمز رنگم تا آخر پی آغاز پیدایشم باید خودم رو گم کنم پیدا بشم نه اونقدر بزرگم که کوچیک ببینم نه اونقدر کوچیک که بزرگ ببینم یوم زندگی کنم که فقط بمیرم یوم بمیرم همش بگ دستم خودکار آستین پر مار دوست و دشمن یکی تغییر رخ کار یکی تون دو تا تون سه تا تو شما خامه رسیدم ما پخته یه راه شما حزب شهرت تو غرفه یه بار میخواستم یه آلبوم فوشت بدم دیدم کل قضیه اوکیه با دوتا کلمه یه جمله دوتا کلمه یه جمله دوتا کلمه یه جمله لعنت به شعرتون که خرج قماره هر دوزاری خریدین خرجش دلاره بهونه تو بذار واسه بدتر که شد بدتر مصمم مثل ابله بد نمیشه گفت رپر حتی چه برسه هیپ هاپ کس شعر بنویس بده متا پولتو بذار جیبات چون من بازیمو بلدم و اینجام تهرونه و منم ناشتا پا شدم از خواب خوردم کلتا هستتا توف کردم رو آسفالت بازیافت صدامی تو روزای آفتابی میرم کل شهر و پایین آروم بدون داستان.
La chanteuse iranienne Roudi, née à Téhéran, pour terminer cette première partie avec ce titre 10 qui signifie désastre. Et direction à présent le Soudan.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous sommes venus au commandement militaire régional de l'État de la Mer Rouge pour célébrer avec nos forces armées la grande victoire obtenue après la reprise du palais présidentiel, symbole de l'État soudanais.
Pour nous, la reprise du palais présidentiel signifie la libération de Khartoum. Il ne reste plus grand-chose à Khartoum à saisir. Félicitations au peuple et à l'armée.
Témoignage recueilli par TV5 Monde à Port-Soudan, le fief de l'armée régulière soudanaise, où les habitants se réjouissaient de la prise du contrôle du palais présidentiel de Khartoum en mars. Une victoire stratégique mais aussi symbolique puisque c'est au cœur de la capitale que le conflit a éclaté le 15 avril 2023. Cela fait maintenant 2 années que les forces de l'armée soudanaise du général Al-Burhan et la milice des forces de soutien rapide, les FSR de Mohamed Hamdan Dagalo, s'affrontent dans une guerre totale pour le contrôle du pays. Une guerre qui condamne des millions d'habitants à une situation d'insécurité physique, sanitaire et alimentaire aiguë, en particulier dans la région du Darfour où les FSR ont attaqué l'un des plus grands camps de réfugiés il y a quelques jours. Comment le Soudan, son territoire, ses habitants, ses ressources se retrouvent-ils fragmentés par 2 années de guerre? Jusqu'où ira la détermination des groupes armés aidés de leurs alliés internationaux? On en discute avec nos 2 invités, Jérôme Toubiana. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'être ici. Vous êtes conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières et nous sommes également en ligne depuis Genève avec Raphaël Chevrillon-Guibert. Bonjour.
Bonjour Mélanie et bonjour Jérôme.
Et bienvenue, vous êtes chercheuse à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et aussi chercheuse associée au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale, le CEDEJ de Khartoum. Et on commence cette discussion, comme chaque vendredi, avec l'édito de Marc Semo.
Oui, merci Mélanie. Alors, ce conflit, ce long conflit soudanais est aujourd'hui la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Tu l'évoquais, il y a plus de 13 millions de Soudanais qui ont été déplacés par les combats, et plus de 44 millions sont au bord de la famine dans une situation sanitaire absolument terrible. Alors, c'est une lutte pour le pouvoir et ses prébendes entre 2 seigneurs de la guerre. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est le chef des forces armées soudanaises. De l'autre, Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Hemeti, avec sa milice paramilitaire des forces de soutien rapide. Idéologiquement, sur le fond, rien ne les sépare. D'ailleurs, ils avaient été ensemble au pouvoir et mis un terme aux espoirs de la transition démocratique ébauchée avec la chute en 2019 du sinistre dictateur islamiste Omar al-Béchir. Ce dernier avait été inculpé d'ailleurs par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et de génocide pour les massacres, notamment dans la province du Darfour, mais malgré les engagements d'ailleurs de ceux qui l'avaient renversé, il n'a jamais été transféré à La Haye. Et aujourd'hui, ces atrocités se poursuivent, commises de fait par les deux camps. Alors, la junte militaire a reconquis la capitale, mais continue à bombarder massivement les territoires de ses adversaires, faisant de très nombreuses victimes civiles. Les paramilitaires d'Erkmeti, bien armés grâce à la contrebande et leur soutien étranger, multiplient les exactions contre les populations civiles, notamment dans leur fief du Darfour, où elle mène un véritable nettoyage ethnique. Alors, 14 ans après la sécession du Soudan du Sud, qui avait été entérinée par la communauté internationale, le plus grand pays d'Afrique, est le Soudan, continue de se déchirer avec le risque toujours plus réel d'un scénario à la libyenne avec deux entités se combattant dans un carnage sans fin. Alors, c'est une tragédie en outre qui reste sous les radars médiatiques dans un silence général de la communauté internationale.
Et bien justement, on en parle ce matin dans Culture Monde.
C'est justement l'importance d'en parler.
Raphaël Chevrillon-Guibert, il y a un mois, donc, l'armée a annoncé la reprise de la capitale, Khartoum. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre quelle est la portée militaire, peut-être aussi symbolique, de la reprise de cette capitale, là où le conflit avait éclaté le 15 avril 2023 ?
Alors, c'est vrai que c'est assez déprimant d'imaginer qu'on ait poussé finalement un peu la population soudanaise à choisir entre la peste et le choléra, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a deux ans, quand le conflit a explosé, on avait eu juste avant, un an avant, une restauration autoritaire après une grosse révolution civile qui avait enfin porté un vrai espoir pour le pays d'un changement de régime, vraiment vers une démocratie. Bataille interne à l'appareil de sécurité, on se retrouve avec cette guerre, avec un espèce de choix entre les militaires et les Rapid Support Forces, qui sont finalement une branche de cet appareil de sécurité, et on est deux ans après, un pays dévasté, une capitale dévastée, à entendre un certain nombre de personnes de la population qui se réjouissent d'une ce qui serait une libération, mais finalement on a quand même toujours deux protagonistes qui ne voient comme solution au conflit qu'une solution militaire. Donc c'est vrai que c'est difficile d'apprécier finalement la portée. C'est sûr qu'elle est symbolique parce que en fait la prise de Khartoum par cette branche militaire venant du Darfour avait quelque chose de totalement improbable. Ça faisait, le 19e siècle qu'on n'avait pas eu ce type d'expérience. Et en réalité, une reprise par l'appareil militaire n'est pas non plus quelque chose de totalement réjouissant.
Et puis, si libération il y a, c'est aussi dans un contexte d'intense destruction. Jérôme Toubiana, que savons-nous de l'état dans lequel se trouve la ville, la capitale Khartoum, après deux années de combats urbains ?
D'abord, on ne sait pas tout, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est quand même largement dévastée. Il faut voir que Khartoum, c'était quand même une mégapole. C'est des millions d'habitants. Et donc beaucoup d'infrastructures, beaucoup de services qui ont totalement disparu, même si il y a eu tout un certain nombre de réseaux de solidarité qui ont pu essayer de faire marcher tant bien que mal même des hôpitaux. Mais récemment, avant la reprise de contrôle de l'armée, nos quelques hôpitaux à Khartoum, on avait dû en fermer. Tout simplement du fait des combats, mais aussi d'attaques directes, d'intrusions, de bombardements, parfois ciblés. Du coup, il y a effectivement, c'est une ville à reconstruire, quoi. Et une grande ville à reconstruire.
Oui, donc quand les forces du général Al-Burhan se félicitent d'avoir repris le palais présidentiel, c'est aussi ce palais-là qui est en ruine. Ce qu'ils ont repris, c'est aussi en partie des amas de gravats, d'immeubles effondrés. C'est cette réalité-là aujourd'hui.
Oui, bien sûr, pour le palais présidentiel, c'est surtout symbolique. Tout comme pour le quartier général de l'armée, où l'armée avait été assiégée au début du conflit. Il y a aussi des lieux de patrimoine, comme le musée qui contient des antiquités nubiennes, pharaoniques, très anciennes, qui a été visiblement totalement pillée. Et il y a eu beaucoup de pillages. C'est un peu aussi la marque de fabrique et la manière routinière d'opérer des forces de soutien rapide ou des milices du Darfour, c'est de piller. Donc il y a effectivement plus que de la reconstruction. Mais après, on voit qu'il y a des gens qui rentrent et qui vont peut-être être déçus, mais pour l'instant, qui sont peut-être, en tout cas pour certains d'entre eux, plutôt enthousiastes à l'idée de pouvoir retrouver ou voir tout simplement ce qui reste de leur maison, de leurs biens, etc.
Marcément.
Juste sur ce point, est-ce que les forces armées, malgré tout, sont les représentants d'une certaine forme étatique et que donc, de ce point de vue-là, représentent quelque chose qui pourrait être un peu plus stable que les forces de soutien rapide d'Hermetti?
C'est en tout cas ce que semble penser une grande partie de la population. Notamment du fait des violences plus élevées, hein, statistiquement, d'après une base de données comme Acled, qui est assez sérieuse, des forces de soutien rapide, même si l'armée fait des violences aussi. Et aussi, les forces de soutien rapide se sont un peu isolées sur leur base tribale originelle, arabe du Darfour. L'armée, elle, a plus de diversité, on va dire, au moins au niveau des simples soldats qui viennent de tout le Soudan. Même si les généraux, les chefs restent plutôt originaires du centre de Soudan, y compris Khartoum. Mais là aussi, on sent une ouverture un petit peu inhabituelle du fait que l'armée a été s'est sentie vraiment fragilisée par cette guerre. Elle a quand même perdu une grande partie de son territoire et sa capitale. Et du coup, pour reprendre du poil de la bête, elle a dû aussi s'ouvrir un petit peu à des alliés, à des officiers en interne qui viennent pas forcément de l'élite traditionnelle, mais aussi à des groupes armés alliés qui viennent aussi du Darfour, mais plutôt des communautés non arabes. Donc il y a un enjeu là de compétition aussi entre l'armée et les forces rapides pour avoir une base moins tribale. Et à ce jeu-là, c'est plutôt l'armée qui a le vent en poupe.
Alors, ce qui n'empêche pas les exactions, vous l'avez dit, Raphaël Chevrillon-Guibert, depuis la reprise de la capitale, des actes de répression sur les civils qui vivaient dans les quartiers qui étaient tenus par les forces de soutien rapide ont été signalés. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'en est ému. Qu'en savons-nous exactement et qu'est-ce que ça dit d'une logique, d'une politique de vengeance généralisée qu'on trouve à l'œuvre dans les deux camps?
Bah, c'est vrai que ce que disait Jérôme était juste. Hein, l'armée, malgré tout, a une reconnaissance, on va dire nationale, beaucoup plus forte que ce que peuvent avoir les forces de soutien rapide, du fait, mais historiquement, on va dire, du type de recrutement, même s'il y a une concentration de gens issus plutôt d'une région pour le commandement, le reste, le gros des troupes, était quand même plus large. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer que cette libération, si c'est une libération, en tout cas apaise et permette surtout d'avoir la paix dans la capitale, ou en tout cas les gens puissent revenir. Mais c'est vrai que c'est la problématique centrale, c'est les règlements de compte. On l'a vu par exemple avec la libération de la région La Guézira, donc située entre les deux Nils qui sont au sud de la capitale. En fait, il y a eu beaucoup de procès. Certains étaient même des vrais procès, hein, mais qui ont été collectifs, en fait, sont du coup des gens qui étaient jugés pour avoir vraiment permis l'arrivée des forces de soutien rapide qui, à un temps donné, ont contrôlé cette zone de la Guézira et qui, du coup, se retrouvent là à être considérés comme des potentiels chevaux de Troie pour plus tard. Et donc, il y a une véritable partition interne aux populations civiles qui est hyper dommageable dans un Soudan qui déjà est aux prises avec ses problématiques ethniques depuis très longtemps. On l'avait vu il y a 25 ans avec la guerre au Darfour. Donc c'est vrai que là, ça a ravivé toute cette problématique de est-ce que quand on est darfourien, on va être pro-RSF, même si, comme le disait Jérôme, il y a un positionnement plus compliqué que ça, puisqu'il y a certains groupes du Darfour qui se sont finalement ralliés à l'armée. Au niveau des populations, on a une suspicion systématique, finalement, avec les Darfouriens qui sont dans la capitale ou qui sont dans la Guézira, qui pourraient être des chevaux de Troie, des FSR, et qui, du coup, des vrais règlements de compte problématiques qui sont dénoncés et qui sont réels.
Et on voit bien que les forces de soutien rapide essayent d'en jouer de cette partition. Il y a quelques jours, à l'occasion justement des deux années de déclenchement de la guerre, le général Hemeti a annoncé la création d'un gouvernement parallèle. Est-ce qu'aujourd'hui le projet c'est de unifier un territoire qui correspondrait au Darfour, à la région du Darfour, Jérôme Toubiana, et de acter une partition de cette région du reste du Soudan?
C'est pas clair pour moi si c'est le projet, mais en tout cas c'est le risque, surtout si l'armée fait moins d'efforts au Darfour, politiquement ou militairement, ou l'abandonne un peu aux forces rapides, comme ça a été historiquement le cas dans les dernières années de Béchir, et même pendant la transition démocratique, les politiciens civils de Khartoum ne manifestait aucun intérêt pour le Darfour, alors qu'il y avait déjà des massacres à l'époque. Mais il y avait une hégémonie, quasi-hégémonie des forces rapides sur le Darfour, jusqu'à la guerre actuelle quasiment. Donc il y a un risque, il y a la constitution d'un gouvernement RSF, l'annonce d'imprimer une nouvelle monnaie. Par ailleurs, tout ça, c'est assez politiquement contre-productif pour les forces de soutien rapide, parce que ça leur fait perdre du soutien, y compris parmi des alliés civils ou même d'autres groupes armés qui étaient alliés à eux pour des raisons opportunistes ou vraiment d'hostilité historique plus forte envers l'armée, mais qui ne sont pas pour la séparation une nouvelle séparation du Soudan, puisqu'il y a déjà eu une première séparation du Soudan du Sud en 2011. Et aussi au niveau international, même des États qui étaient relativement bienveillants en Occident, par exemple, envers les forces de soutien rapide.
Vous pensez à quel État ?
Condamné très clairement. Les Occidentaux, en général, ils n'étaient pas directement favorables aux forces de soutien rapide, mais souvent favorables aux politiciens civils, qui eux-mêmes étaient légèrement plutôt biaisés envers les forces de soutien rapide. Et tout ça est en train plutôt de changer, notamment parce que, à cause de la violence des forces de soutien rapide, mais aussi parce que ce séparatisme ou cette tendance éventuellement séparatiste est mal vue nationalement et internationalement. Globalement, c'est une ligne rouge. Personne n'est vraiment pour avoir deux Soudans, sauf peut-être quelques États de la région qui ont des ambitions ou qui ont mis tous leurs œufs dans le panier des forces de soutien rapide.
Alors, justement, à ce sujet, c'est la question que je voulais vous poser. Il y a notamment les Émiratis qui soutiennent les forces de soutien rapide, mais qui d'autres ? Et est-ce que finalement, on voit aujourd'hui un engagement croissant de divers pays par rapport à chacun des deux camps ?
On va laisser Raphaël Chevrillon-Guibert répondre.
Alors oui, c'est vrai que les Émiratis, il n'y a pas de doute. En ce moment, on sait qu'ils sont favorables plutôt au camp des FSR pour avoir fait des choix tactiques qui sont aussi liés en fait à leur positionnement à la fois côté Tchad mais aussi côté libyen, mais ce sera pas forcément à tout prix. Néanmoins, on est sur un échiquier international qui est plus que d'être convaincu par un projet, comme le disait Jérôme, dont on ne sait pas vraiment s'il est séparatiste ou non. D'ailleurs, c'est pas vraiment exprimé, mais on va dire que ça serait, s'il y avait un projet séparatiste, que de l'intérieur des FSR, parce que autour, oui, il n'y a pas tellement de volonté du tout de séparation, que ce soit au niveau de la communauté internationale ou même de tous les partis politiques, on va dire classiques soudanais. Mais ce soutien international, il est central, parce que sans ce soutien, ça pourrait pas tenir. Donc c'est là où est le gros enjeu, c'est-à-dire que non seulement on est sur une crise qui passe sous les radars, alors que c'est des millions de personnes qui sont concernées, qui sont dans des situations extrêmement dramatiques, mais en plus, il y a quand même si on sait très bien que la force de la pression n'est pas toujours efficace, une possibilité d'imaginer, de faire pression sur ces soutiens militaires, l'arrivée d'armes via le Tchad et la Libye de la part des Émiratis pour soutenir les RSF, elle est connue. Elle est connue, discutée de... Enfin voilà, tout le monde le sait. Donc on peut imaginer...
Vous pouvez nous en donner quelques détails concrets, parce qu'on parle de... Vous avez dit les États et les Émirats arabes unis sont favorables au RSF. Très concrètement, c'est un soutien en sonnant et trébuchant, en armes, en munitions, en drones. Voilà, qu'est-ce qu'on sait exactement à la fois de la quantité, du caractère déterminant de ces livraisons d'armes, et puis des circuits aussi par lesquels elles passent.
Alors le côté, la quantité, j'aurais du mal à vous dire. On sait que a priori ça arrive via l'aéroport de Oumdjaras là au Tchad, qui est situé du coup au nord-est du Tchad. Il y a eu quand même pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus, où on a vu atterrir sur cette piste des gros porteurs. Hein, donc c'est des armes qui sont acheminées par ce biais-là. Ensuite, les échanges se font aussi beaucoup pour des questions d'or, c'est-à-dire qu'on a vu le Soudan dans les années 2010 devenir le deuxième producteur d'or africain, ou en tout cas à peu près équivalent, avec 100 tonnes par an produites ce qui est l'équivalent du Ghana, par exemple, hein, pour vous donner une petite idée. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, cet or qui est produit essentiellement artisanalement, sachant que dans l'artisanal, on peut mettre beaucoup de choses assez différentes, hein, du petit or pailleur à de la semi-mécanisation, voire plus gros, on sait très bien que les FSR ont un investissement fort dans cette exploitation artisanale. Donc, on utilise l'or pour financer à la fois le paiement de leur salaire, là, de leurs miliciens, enfin, encore que le terme de milice n'est pas très adapté, et aussi le paiement des armes. C'est vrai aussi chez les militaires. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que l'or joue un jeu important des deux côtés, et pourquoi je le relie aux Émiratis, c'est que l'essentiel de cet or est vendu côté Dubaï, en fait, au niveau de la place marchande de Dubaï. Donc en fait, il y a une articulation à la fois économique et de soutien politique et militaire qui est vraiment assez connue. Et vous avez d'ailleurs des rapports qui sont sortis récemment, là, que ce soit Chatham House ou Swissaid, qui établissent assez clairement ces circuits-là.
Jérôme Toubiana, une conférence internationale se tenait cette semaine à Londres pour parler de la situation du Soudan, où étaient présents des pays occidentaux, mais aussi les États-Unis. Les Émirats arabes unis étaient présents également. Est-ce que cette question de leur soutien à un camp en particulier a été abordée? Puisque, à vous entendre, on comprend que si la guerre perdure à une telle intensité depuis si longtemps, c'est parce qu'il y a ce soutien en armes, en munitions qui arrive. Donc, est-ce que ce sujet a été abordé cette semaine à Londres? Est-ce que des interlocuteurs ont questionné, interpellé les Émirats sur leur soutien? Sachant bien sûr que du côté de Al-Burhan, il y a aussi des soutiens internationaux, mais d'abord sur les Émirats.
C'est d'abord le gouvernement soudanais lui-même, mais qui n'était pas invité à la conférence, qui est particulièrement en ce moment énervé contre les Émirats. Et ça a conduit à autre chose, ça a conduit notamment à une plainte à la Cour de justice internationale, qui est en fait, si on veut, une tentative de répliquer ce que l'Afrique du Sud a fait contre Israël. Donc il s'agit d'une plainte pour complicité de génocide. Par ailleurs, en soi, c'est intéressant parce que ça peut permettre à ces juges de déterminer, oui, s'il y a eu génocide, et effectivement de statuer sur la question de la complicité. Et il ne s'agit pas forcément de soutien militaire, il peut s'agir, comme Raphaël le disait, de facilitation financière ou économique directe ou indirecte, mais et aussi de soutien politique qui là est plus évident. Et du coup, on sent que voilà, ce qui est dommage, comme l'ont fait observer certains intellectuels, en particulier un intellectuel soudanais qui s'appelle Amjad Farid, dans un bon papier dans Foreign Policy, il vient d'observer que c'est dommage que cette plainte ait pas été portée, comme dans le cas d'Israël, par un État tiers et qu'elle ait été portée par un belligérant. Et à mon avis, ça questionne aussi globalement, le manque d'intérêt pour le conflit soudanais, y compris en Afrique, il n'y a plus ce qui pouvait y avoir, il y a encore quelques décennies, une forme de solidarité panafricaine pour les victimes de ce conflit, hein, qui, il faut le rappeler, sont essentiellement les communautés non arabes du Darfour, et qui avaient soulevé, il y a 20 ans, quand elles ont été une première fois attaquées par les deux mêmes belligérants qui s'affrontent aujourd'hui, avaient soulevé une certaine forme de solidarité en Afrique, et aussi dans les communautés noires américaines. Tout ça, aujourd'hui, malheureusement, a disparu. Et c'est, je pense, ce qui attriste beaucoup les Soudanais. Ils se sentent très isolés. Et donc, voilà. Après, effectivement, comme vous le disiez, à Londres, je pense qu'on est resté à un langage diplomatique qui condamne tous les soutiens éventuels des belligérants et qui appelle à plus d'unité internationale pour parvenir à une solution. Et globalement, ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas marché à Londres. Par exemple, un des volets qui était discuté à Londres, qui était de faire de nouveau, comme ça avait eu lieu pour le Darfour, une coalition internationale autour pour soutenir une médiation de l'Union africaine précisément, n'a pas été acceptée par tous les acteurs présents.
Marc Semo.
Mais comment vous expliquez justement cette indifférence et africaine et aussi la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Soudan, qui est à la fois le plus grand pays d'Afrique, qui est au cœur du continent, ça c'est une plaque tournante entre toutes les Afriques, donc qui a une place géostratégique fondamentale. Donc comment vous expliquez justement qu'à la différence d'il y a 20 ans, aujourd'hui, voilà, tout le monde laisse faire.
Raphaël Chevrillon-Guibert.
Alors, je pense qu'il y a eu à la fois un peu la chute de l'espoir qu'avait fait naître cette révolution de 2019,
Et c'est vrai qu'elle était regardée très, très largement à cette époque-là. Moi, j'étais en affectation au Maroc et j'étais surprise de voir mes collègues qui tous suivaient attentivement ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire qu'une population civile dans la rue qui pacifiquement renverse un régime au bout de 30 ans, ça paraissait complètement dingue. Et c'est vrai que le retour des armes, un peu, on va dire, classique, il y a un côté, en fait, on a rêvé. Et ça sera toujours... Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi ce côté un peu, ça sera toujours la même chose, plus dans un contexte où on a des putschs militaires qui ont été successifs, hein, sur toute la zone sahélienne notamment. La reprise en main militaire du régime et le fait que ce soit que par les armes que les... que voilà, les gouvernements puissent changer, il y a un, ça rappelle quelque chose à l'ensemble des pays africains. Et du coup, ça donne des choses un petit peu difficiles pour se positionner. Parce que là, tout le monde était assez d'accord qu'on avait la peste ou le choléra. Donc, personne n'avait envie de choisir. Donc, aujourd'hui, on est poussé à vouloir choisir. Mais toutes les tentatives, tout à l'heure Jérôme le disait, là, de médiation... Il y en a eu quand même au début du conflit. On a des belligérants qui n'ont pas du tout envie de discuter. Pour l'instant, on voit bien que la solution militaire reste celle qui est toujours mise en avant. Il n'y a pas tellement de prise faite pour une autre solution. Du coup, sans pression internationale, lancer une médiation avec des gens qui n'ont pas envie de trouver une solution, ça semble compliqué.
Parce que chaque camp, Raphaël Chevrillon-Guibert, pardon, pour bien comprendre ce que vous dites, parce que il n'y a pas d'ouverture vers une médiation, parce que chaque camp est persuadé qu'il a encore les moyens de l'emporter sur l'autre, d'obtenir une victoire totale.
Oui. On voit bien que dès que la saison des pluies, par exemple, s'était arrêtée, là, à l'automne dernier, hop, reprise des hostilités. Chacun a essayé de reprendre des territoires, se repositionner. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu la reprise de Khartoum par l'armée. Mais qu'est-ce qui se passe au Darfour? Les FSR se déchaînent contre El Fasher. Donc il y a un jeu militaire constant, mais qui ne s'arrête pas. Et on n'a aucune trace d'une volonté de l'arrêter.
El Fasher, qui est cette capitale du Darfour du Nord, qui est actuellement sous la pression militaire des milices de soutien rapide. Vous écoutez Culture Monde, Raphaël Chevrillon-Guibert et Jérôme Toubiana sont nos invités pour parler de la situation au Soudan meurtri par deux années de guerre et menacée de partition. Comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Mohamed Jouman, alias Mehdi, un caricaturiste tanzanien. C'est une image qui résume tragiquement la violence et l'absurdité de la guerre au Soudan. On y voit une ville détruite que l'on suppose être la capitale, Khartoum, des immeubles effondrés, un amas de gravats et de ruines desquels s'élève une épaisse fumée noire. En arrière-plan, les deux responsables de cette situation, le général Al-Burhan et le général Emeti, se font face, armes à la main, tandis que tout près d'eux, un enfant, le corps amaigri et blessé, tend une assiette vide. Au-dessus de cette assiette, un grand point d'interrogation. Un dessin à découvrir sur le fil du compte Blue Sky de Culture Monde et sur la page internet de notre émission. Une réaction de nos invités à cette caricature venue de Tanzanie, Jérôme Toubiana.
Certainement, il y a aussi l'aspect fin qui est assez flagrant. Au Soudan, on a actuellement les seules zones de famine déclarées au monde. Et le système, aujourd'hui, pour déclarer une famine, c'est plus un simple mot que tout le monde peut utiliser. C'est devenu quelque chose de très technique. Donc, il y a un comité international avec qui nous, MSF, on a régulièrement discuté et qui a besoin de données très précises et donc qui déclare rarement des famines. En 20 ans d'existence, il y en a eu, c'est seulement la troisième qui est déclarée. Et là, ils l'ont déclaré d'abord, notamment parce que nous, MSF, on a pu avoir des données. Le problème au Soudan, c'est qu'on manque de données. Et donc, là où on travaillait, nous en particulier, dans ce camp de Zamzam que vous mentionnez, et qui vient d'être attaqué, avant même que la ville voisine et le camp de Zamzam, donc El Fasher et Zamzam, soient assiégés il y a environ un an, les études qu'on avait faites donc début 2024 montraient des taux de malnutrition particulièrement élevés et qui n'ont cessé de monter. 25%, puis on est arrivé dans les 30% juste avant le siège en avril 2024. Et enfin, en septembre, on a fait une autre étude où là, on dépassait les 30%. Il y a encore une étude récente faite par les Nations Unies qui ont pu travailler avec des acteurs locaux à El Fasher, avec des taux dans les 38% et le taux d'urgence est de 15%. Donc on a clairement une situation de famine qui a fini par être connue après quelques mois, d'abord dans le seul camp de Zamzam, puis dans les deux autres camps de personnes déplacées autour d'El Fasher, et enfin dans la région du Kordofan, un peu plus à l'est que le Darfour. Et tout ça, évidemment, d'abord, c'est pas une famine naturelle. Dans le cas d'El Fasher et Zamzam, elle est clairement liée à un siège militaire par les forces de soutien rapide. Et enfin, il est probable qu'il y ait d'autres situations similaires ailleurs au Soudan, mais on n'a tout simplement pas les données. Et donc, évidemment, c'est une famine liée à la guerre qui est notre préoccupation principale. Vous parliez de la conférence de Londres, mais les financements qu'ils accordent pour cette situation humanitaire-là sont même insuffisants pour...
800 millions ont été annoncés.
C'est tout à fait insuffisant pour couvrir les besoins. Déjà, les financements de l'année dernière de 2 milliards à Paris, la conférence équivalente à Paris, étaient tout à fait insuffisants. C'était la moitié seulement de l'objectif fixé. Donc bref, on en est loin. Et par ailleurs, il y a un problème d'accès, notamment dans une zone qui est assiégée, comme El Fasher. Il y a tout simplement un problème d'accès, même avec les financements. Comment faire entrer l'aide ?
Raphaël Chevrillon-Guibert, la difficulté d'accès pour les humanitaires au Soudan, pour les journalistes également, pour les chercheurs, pour les diplomates. Comment cela, c'est aussi une donne du sujet? Dans quelle mesure est-ce que cela arrange aussi les belligérants, leurs alliés sur place, que le Soudan devienne inaccessible?
Je pense que votre cartoon l'illustre bien. Il y a quand même deux grands responsables. Et ça, il faut pas l'oublier. Il y a des besoins, Jérôme le disait, énormes, colossaux. Donc certes, la communauté internationale doit intervenir, peut donner de l'argent. Mais il y a des responsabilités. Il y a deux responsables qui continuent de faire la guerre, qui empêchent les gens de travailler dans l'humanitaire, dans la recherche, de donner des informations. Vous n'avez plus aucune information, comme ça, vous n'avez pas trop de risques, ou en tout cas moins de risques, de vous faire prendre la main dans le sac en train de faire un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Et ça, je pense qu'il faut garder en tête, il y a d'autres possibilités, il y a des solutions politiques, il y a des groupes civils politiques qui proposent autre chose qu'une solution militaire, et c'est sur ces groupes-là, qui sont quand même encore très actifs, je pense à tous les comités de résistance qui se sont mis en réseau à l'intérieur du Soudan pour essayer de venir en aide dans la mesure de leurs moyens, qui sont extrêmement limités un peu partout dans le pays. On peut s'appuyer sur ces personnes-là. Il n'y a pas un grand vide, comme quelquefois on a un peu l'impression de l'entendre de la part de diplomates de la communauté internationale. L'alternative, elle n'est pas un militaire ou un RSF. Il y a d'autres personnes qui ont des plans beaucoup plus enthousiasmants pour le Soudan. Et je pense que c'est aussi là qu'il faut travailler, qu'il faut mettre en avant les gens, qu'il faut les mettre sur le devant de la scène, en plus de largement intervenir. C'est sûr que 800 millions, c'est pas du tout suffisant. On est sur des millions de personnes déplacées en situation critique. C'est sûr que la réponse est pas du tout à la hauteur.
Ces personnes, ces alternatives politiques dont vous parlez, est-ce que cela se joue aussi chez toutes les personnes qui ont trouvé refuge dans les pays voisins, en Égypte par exemple, en Occident, au Tchad? Est-ce que il y a eu énormément de déplacés, la majorité à l'intérieur du Soudan, mais aussi à l'extérieur? Est-ce que c'est là aussi que se trouvent des réseaux qui pourraient proposer une alternative politique pour le Soudan? Jérôme Toubiana, pardon.
Oui, il y a beaucoup de réfugiés et qui sont allés dans les pays voisins, en fait environ 3 millions, surtout au Tchad et aussi beaucoup en Égypte, même en Libye et certains en route vers l'Europe. Bon, alors parmi eux, il y a évidemment des intellectuels et des gens qui ont été même des militants, etc., et qui effectivement peuvent jouer un rôle dans un processus de paix et sont intéressés par jouer un rôle. Mais pour autant, il y a aussi beaucoup de gens à l'intérieur du Soudan, et il faut surtout pas oublier ceux-là, qui eux, à mon sens, doivent jouer un rôle primordial. Et ça inclut effectivement ces comités de résistance qui ont en fait souvent mué en ce qu'on appelle des chambres d'urgence et qui effectivement se sont beaucoup investis dans l'aide humanitaire. Par contre, ils sont très isolés et surtout, ils vont souffrir de plus en plus du manque de financement, notamment à cause des coupes budgétaires de Donald Trump, parce que les États-Unis, dès la conférence de l'année dernière à Paris, avaient été intéressés par essayer de trouver des moyens justement de financer ces chambres d'urgence au vu du fait qu'ils sont tout simplement présents dans des endroits où il n'y a pas d'acteurs internationaux.
Référence à l'agence fédérale de l'USAID qui joue un rôle majeur dans tout l'écosystème humanitaire, c'est à ça que vous faisiez référence
oui,
sur les États-Unis
en particulier, mais il y a beaucoup d'autres financements qui ont été coupés, y compris à des instituts de recherche par exemple, qui travaillaient pas mal sur le Soudan.
La chanteuse soudanaise Racha, exilée aujourd'hui en Espagne avec ce titre qui date de 1997. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Jérôme Toubiana, je rappelle, conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières. Merci Raphaël Chevrillon-Guibert d'avoir été en ligne avec nous depuis Genève, chercheuse à l'IRD et au CEDEJ de Khartoum. Merci beaucoup Marc Semo. La semaine prochaine, c'est Julie Gacon que vous retrouverez au micro de Culture Monde et le vendredi et le lundi, bien sûr. Pour une nouvelle série lundi, nous nous demanderons pourquoi le président Trump s'acharne à détruire les piliers du soft power américain. Médias, cinéma, université, aide au développement, on en parlait à l'instant. L'Amérique veut-elle et peut-elle encore séduire? Et dans un instant, les midis de culture.